L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Il est 9h30 à Boston. L'effervescence est de mise au cœur de la capitale du Massachusetts. Aujourd'hui, c'est le Patriot Day, un jour férié dans tout l'État depuis 1894. Un jour important. Nous sommes le mercredi 19 avril 1967. Ce jour commémoratif est aussi celui du plus ancien marathon de l'histoire depuis 1897. Aujourd'hui, c'est la 70e édition du marathon de Boston. Rien, pas même les guerres mondiales, n'ont pu annuler ce géant. Il faudra, mais ça c'est beaucoup plus récent, qu'un virus mondial et mortel passe par là pour le mettre à l'arrêt durant 2 ans, en 2020 et 2021. Mais ça, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, 19 avril 1967, de Sars sur le dos, des centaines de coureurs s'apprêtent à prendre le départ de la course. Parmi eux, une femme. Elle porte du rouge à lèvres et un bandeau autour des cheveux. Encadrée par les deux hommes de sa vie, elle est prête à s'élancer. Vous voyez pas de problème ? C'est à l'époque formellement interdit pour une femme de courir le marathon. Et Catherine Switzer, l'héroïne de notre histoire du jour, n'en a rien à faire. Il est 9h30. Le pistolet s'apprête à marquer le départ. Et c'est leur hache de mon histoire. Il fait un temps à ne pas mettre un coureur dehors. Un temps épouvantable. Où pluie et neige se mélange, maltraitant les dossards et les trainings. Tom Miller, le petit copain de Catherine Switzer qui l'accompagne, souffle déjà. Il déteste la pluie. Catherine sourit. Au milieu de tous ces visages masculins prêts à en découdre, elle est donc la seule femme. Et la première à prendre le départ dossard sur le dos. Nous le verrons plus tard. Cette petite nuance a de l'importance. Enfin bref, voilà KS, comme la surnomment les mecs du club d'entraînement, qui s'étire. Les gouttes, ou les flocons, elle ne sait pas bien comment les appeler, viennent mourir dans ses cheveux. Ses baskets, déjà, prennent l'humidité. « C'est parti pour plusieurs heures », grommelle-t-elle entre ses dents. Mais interdiction de se plaindre. Arnie Briggs, son coach, l'homme qui lui a tout appris, est à côté d'elle. Lui aussi l'encadre pour prendre ce départ. L'homme, un sage parmi les sages, la double d'un regard. Catherine est prête. Et son acte révolutionnaire, lui, va entrer dans la légende. Nul doute sur ce point. À sa gauche, Tom observe les commissaires de course qui tentent de se frayer un chemin parmi la foule. Ils sont plusieurs centaines de milliers, encore cette année, à braver avec eux ces conditions climatiques dantesques pour participer à cette course que le monde entier admire. Le marathon de Boston, nom de nom. Voilà une épreuve de légende. Ceux qui l'ont gagné à la sueur de leur front sont entrés au panthéon de l'athlétisme. Les gratte-ciels alentour disparaissent sous les nuages de pluie et de neige. Aux fenêtres, de nombreux spectateurs, encore en pyjama, et en train de boire leur café bien chaud, attendent. Le départ doit avoir lieu bientôt, du moins c'est ce qui est prévu. Encore quelques minutes, une ou deux, et ce sera parti. Il vaut mieux bouger que de rester le nez sous la flotte, c'est du moins l'opinion de Catherine. Ici, plus de 600 000 habitants sont imprégnés de l'histoire de tout le pays. Le centre de la ville est un livre ouvert sur le passé colonial des États-Unis. Les bâtiments en pierre blanche côtoient le modernisme naissant. Tout est beau à Boston. Les nombreuses zones piétonnes et cyclables, les immeubles de bureaux, phénomène nouveau ici puisqu'ils n'ont été autorisés qu'en 1960, les parcs et les étangs. Tout est paisible, tout respire le calme, la tranquillité. La ville est le royaume du sport, notamment du basket. Qui ne connaît pas les Celtics de Boston, et leur tête d'affiche, Bill Russell. Le monde l'ignore encore, mais cette année-là, ils deviendront champions de la NBA face aux Lakers de Los Angeles. Les sportifs de haut niveau, la ville connaît donc ça. D'autant plus que le basket n'est pas le seul poumon de la métropole. Il y a aussi le marathon. Catherine patiente encore sous la pluie quand, un peu plus loin, elle remarque un vieux monsieur en fauteuil roulant. Il est abrité sous un arbre, au premier rang des spectateurs. Il a sur les genoux sa petite fille de 8 ans. Il lui raconte l'histoire d'une course à laquelle il a un jour participé. La première édition, en 1897, ne comprenait que 18 participants. Une paille. Inimaginable aujourd'hui. Bien plus tard, en 1996, pour la centième, ce seront plus de 36 000 coureurs qui prendront la ligne de départ. Aujourd'hui, ils ne sont pas tant, mais les gladiateurs de ce sport sont tout de même là, en nombre. Bien entendu, ce petit pépé ne sait pas que parmi les barbes, les moustaches et autres cheveux courts, se tient une femme qui ne se cache pas et qui, comme les autres, patiente sous la pluie en attendant le go. Lui, ce grand-père, il ne l'a jamais gagné cette course très exigeante. Non, mais il a néanmoins fait une excellente 13e place en 1933. Une sale période pour l'histoire où s'annonçait la Seconde Guerre mondiale. Mais cette histoire-là attendra encore un peu pour qu'il la raconte à sa petite-fille. Au lieu de ça, il lui parle des évolutions de l'équipement des coureurs, des spécificités de ce marathon, des rues et des virages dangereux partant de pluie, puis du blason de la course, si particulier. Une licorne jaune sur fond bleu. Alors, vous imaginez bien que la petite en ciré jaune qui regarde son aîné avec des yeux pleins de confiance ne comprend pas tout ce que le vieil homme lui raconte. Non, en effet, mais elle écoute et elle attend avec ses petites figurines en main. À quelques dizaines de mètres de là se trouve Catherine. Elle n'en revient toujours pas d'avoir obtenu l'enregistrement lui permettant de participer officiellement à l'épreuve. Et ce, alors qu'elle est totalement interdite depuis toujours aux femmes. L'une de ses mentors, celle qui l'a poussée à faire ce coup de com' extraordinaire pour l'époque, est aussi au départ. Mais elle ne porte pas de dossard. C'est déjà la deuxième année qu'elle se cache les yeux derrière une casquette vissée sur la tête. Bobby Gibb, c'est son nom, est la première femme à avoir terminé le marathon l'année précédente. Lorsque Catherine a appris ça, elle s'est décidée. Cependant, elle réussit là où son modèle a échoué. Elle a un numéro dans le dos, le 261. Et ce nombre, parmi tous les autres, entrera bientôt dans la légende. Celle de son sport, certes, mais aussi celle de la lutte pour l'égalité des sexes, pour l'égalité face à l'épreuve et pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Rendez-vous compte. En 1967, les femmes en France n'ont le droit de vote que depuis 20 ans. Mais face à l'interdit qui cloisonne son sport, KS a décidé de se dresser contre l'ordre établi et de tenter sa chance. Il pleut toujours. Mais voilà que le commissaire principal, enfin, arrive sur l'estrade avec une petite boîte à la main. À l'intérieur, brillant pistolet. C'est celui utilisé depuis toujours pour lancer le départ. Les Américains ont toujours eu le sens du spectacle et des traditions. « Messieurs !» annonce-t-il. Et notre héroïne pense à Bobby, qui se trouve elle aussi dans la masse de participants. Son petit ami lui jette un regard amusé, et puis soudain, tout va très vite. Le coup de feu part. Les oiseaux sur les branches s'envolent le long des immeubles. La pluie semble avoir compris qu'elle devait laisser la course se faire et ralentit la cadence. Les participants s'élancent. Déjà, les premiers de cordée se détachent. Peu importe pour Catherine. La gloire n'est pas dans la victoire, mais déjà dans la participation. Les deux hommes qui l'encadrent sont là pour l'accompagner tout au long de l'épreuve. Les trois mousquetaires démarrent donc et se sentent bien dans leur première foulée. Et le quatrième larron de la bande, où est-il? Il ne figure pas sur la ligne de départ, mais son rôle est tout aussi primordial. C'est le père de Catherine. Sans lui non plus, il n'aurait pas été question de départ. Notre histoire, elle commence bien plus tôt, il y a très très longtemps, à la lisière d'un temps que nous connaissons sous le célèbre adage « Il était une fois ». Nous sommes en 490 avant Jésus-Christ, en Grèce, en plein cœur d'une bataille sanglante, à l'issue plus qu'indécise. Cette bataille, elle oppose l'Empire perse, superpuissance d'une époque révolue, aux Athéniens qui sont les seuls encore aptes à pouvoir bloquer l'avancée de cette armée gigantesque. Le roi Darius Ier, qui commande les troupes venues du Moyen-Orient, ne s'attend pas à ce que la résistance grecque lui pose problème. Ah, l'excès de confiance, c'est bien souvent le plus mauvais des conseillers. Pour lui, les présages sont bons. Alors ce chef suprême de l'immense nation se décide à lancer l'attaque et à débarquer dans une baie dont le nom va traverser les millénaires, Marathon. Face à l'orgueilleux guerrier se trouve une armée athénienne, bien moins importante en nombre. Elle attend des renforts qui doivent venir de Sparte, mais la célèbre cité aux guerriers, qu'on dit aussi fort que des ours, est en plein milieu d'une célébration qui doit durer plusieurs jours. Pourtant, les Athéniens ont envoyé chez leurs alliés leur meilleur coureur, Philippides, qui, vous allez le voir, n'a pas fini de nous surprendre. En tous les cas, le roi perse a l'écume au bord des lèvres et le mot « vengeance » qui tourne en boucle dans son esprit. Il faut dire tout de même que les Athéniens ont un peu cherché le courroux qui s'abat sur eux. Ils ont osé incendier la capitale de l'Empire, Sardes, durant ce qu'on a appelé les guerres médiques. Très, très mauvaise idée. Furibard, le roi Darius, a soulevé une armée. Les deux ennemis se retrouvent donc face à face aujourd'hui sur la plaine de Marathon. Mais ni l'un ni l'autre ne veut pour le moment lancer l'offensive. L'attente va durer 5 jours. Et cela arrange bien les soldats venus d'Athènes qui attendent les Goliaths venus de Sparte. La zone est marécageuse aux portes de la ville grecque. Cependant, la victoire est cruciale pour les hommes qui la défendent, sous peine de voir une horde barbare détruire tout l'art antique qu'elle abrite. On parle de 40 000 assaillants perses contre 9 000 soldats athéniens. Du 4 contre 1. Peine perdue. Enfin, disons que ces estimations nous viennent du camp des vainqueurs. Et vous connaissez la différence entre les chiffres annoncés par les organisateurs et ceux communiqués par la police. Eh bien, c'est du même genre. Les Perses étaient certainement bien moins nombreux. Mais l'Empire perse, lui, est bien plus puissant que la ville d'Athènes. Du côté de l'armement, là aussi, ce sont deux écoles différentes. D'un côté, les hoplites grecs, lourds, bien équipés, mais peu mobiles. De l'autre, les cavaliers et les archers perses, rapides, réactifs, mais moins bien protégés. Oui, et là, vous allez me dire que je m'égare et que je suis bien loin du marathon de Boston de 1967. Et vous aurez raison. Mais vous allez voir, je vous explique tout cela pour une bonne raison. Pour vous la faire courte, les Athéniens vont battre les Perses à Marathon, empêchant par là même une invasion qui aurait pu être fatale à leur cité. C'est un véritable camouflet pour Darius qui se replie dans son royaume, piteux. C'est là que démarre la partie de l'histoire qui nous intéresse. Vous vous souvenez, Philippides, le coureur meilleur que tous les autres, parti à Sparte, réclamé du renfort. Eh bien, il était là aussi, sur le champ de bataille. Et c'est tout naturellement que les généraux de l'armée l'ont fait appeler pour aller apporter la victoire de Marathon à la cité. Un mot, un geste, et Philippides fait le reste. Et le voilà parti à toute vitesse, en direction de la ville d'Athènes, pour mettre un terme aux angoisses de toute la ville. Il court plusieurs heures dans les marécages avant d'arriver aux portes de la cité. Il continue jusqu'à l'Agora, la place publique, là où se tient le cœur même de la vie et de l'activité d'Athènes. Là, enfin, il s'arrête. Les pulsations dans sa poitrine sont très élevées, son cœur lui bat aux tempes. Il a l'impression que ses poumons vont lui remonter dans la gorge. Et alors qu'il s'apprête à parler et que tout le monde est pendu à ses lèvres, il s'exclame « Nous avons gagné !» avant de s'effondrer. Rennemort. Le coureur, au-delà d'une destinée héroïque racontée par tous les auteurs de l'époque, qui certainement ont enjolivé l'ensemble de la légende, passera à la postérité pour une autre raison. En calculant la distance entre Marathon et Athènes, on arrive à 40 km. Et aujourd'hui, le marathon, en tant que course, se dispute sur une distance de 42,195 km précisément. Alors, serait-ce du sadisme d'avoir ajouté plus de 2 km ? Mais pas du tout. Nous devons la paternité de ce changement à nos amis anglais. Aux Jeux Olympiques de Londres, en 1908, les organisateurs se trouvent face à un problème. La distance entre le château de Windsor et la loge royale devait être prévue pour faire 40 km tout pile. Mais ils n'y sont pas. Le trajet est un peu plus long. Alors, d'un trait de plume, on décide tout bonnement de changer la distance de cette course légendaire pour une mesure précise de 42,195 km. Le tout pour le bon plaisir du roi barbu Édouard VII. Rien n'est trop beau pour Sa Majesté. Vous avez donc maintenant compris pourquoi Marathon s'appelle comme il s'appelle et aussi pourquoi le tracé est si précis dans sa longueur. Mais revenons à nos moutons. Catherine. Catherine, elle, s'est élancée. Pour elle, les premières foulées sont bonnes. Elle se sent bien. Ses compagnons de route aussi. Son petit ami est en train de s'entraîner. Il vise les prochains JO en lancer de marteau. La course à pied, c'est une excellente thérapie cardio. Et puis, il vit l'histoire aujourd'hui. Pour Catherine, participer à cette course, braver cet interdit, c'est un rêve depuis longtemps. Courir Boston, c'est se faire une place particulière dans le monde des coureurs. Alors le faire pour la première fois officiellement en tant que femme, sa fierté est immense. Mais que le parcours pour y accéder est long et tortueux. À côté d'elle, son coach observe ses pieds qui se posent au sol et lui demande de ralentir un peu la cadence. Il ne cesse de lui répéter. « C'est pas un sprint, hein, Catherine ?» Soit. Avoir convaincu ce vieil ours mal léché de l'entraîner expressément pour la course d'aujourd'hui a déjà été tout un parcours du combattant. Je vous laisse imaginer la tête du coach quand il a appris les intentions de sa protégée. Mais Arnie Briggs a fini par accepter. À une seule condition, qu'à l'entraînement, elle arrive à tenir la distance. Le test s'est tenu à Syracuse, sans problème pour Catherine. Si ce n'est une semelle de chaussure qui a craqué, elle a atteint la distance symbolique tant espérée. Athènes est sauvée. Briggs est un homme de parole. Il décide donc de préparer sa protégée à réaliser l'impossible. Mais comment l'inscrire alors même que c'est interdit ? Eh bien, vous n'allez pas le croire. Mais tout se fait grâce au règlement. Une faille juridique tellement énorme qu'elle paraît inconcevable va lui permettre de courir. Il n'est écrit nulle part, dans aucun texte, que les femmes ne peuvent pas participer. L'interdiction est tellement ancrée dans les esprits, dans les pratiques, que personne n'a jamais pensé à nommément le rédiger dans les textes. Alors, Briggs et Catherine réfléchissent à la meilleure manière de s'inscrire. Et la coureuse va le faire sous le pseudonyme qu'elle utilise dans la rédaction de ses articles, dans la revue de l'université. Le fameux K.V. Switzer. L'inscription est réglée par le père de la jeune femme. Je vous dis que c'est le quatrième larron de l'affaire. Le tour est joué, il ne reste plus qu'à récupérer le dossard 261 et c'est chose faite, le matin même de l'épreuve. Voilà donc Catherine au milieu des 700 autres participants en train de courir tranquillement. Et pas grimée du tout, ah non, comme je vous l'ai dit, elle porte du rouge à lèvres et une tenue féminine. Il n'y a pas de honte à être une femme, pardi. Et puis, elle a payé ses frais d'inscription, comme tout le monde. Les trois mousquetaires ne sont pas seuls. D'autres membres du club sont là aussi avec eux. Les deux premiers kilomètres se déroulent sans souci majeur. Les regards se posent sur Catherine, mais les coureurs masculins, tous aussi surpris que s'ils avaient vu un ovni dans le ciel, lui sourit et lui adresse des encouragements. Tout va bien, dans le meilleur des mondes. Et puis tout à coup, une voiture de l'organisation de la course et de la presse double le petit groupe. Les photographes ne manquent pas de remarquer la jeune femme et prennent des clichés. Ce moment est historique. Ils doivent l'immortaliser. Les deux directeurs de la course, à bord, eux aussi, ne rigolent pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Ils s'appellent Will Cloney et Joke Sample. Ce dernier est écossais et le sang lui monte vite à la tête. Il est enragé. Comment ose-t-elle lui mettre sa course en l'air? Si l'histoire est en cours, la légende, elle, galope déjà.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H est au cœur de l'une des courses les plus célèbres du monde, le marathon de Boston. Durant l'épreuve légendaire de 1967, faisant fi de tous les interdits, une jeune femme s'est inscrite tout à fait légalement au départ. Elle est la première à tenter le coup. Au début de la course, Catherine Switzer est bien entourée par son coach et son petit ami, tous deux des coureurs aussi aguerris qu'elle. Et si tout se passe bien, les premières minutes, une voiture de presse qui les double va provoquer la suite des événements. À son bord, les deux directeurs de la course sont furieux de voir qu'une femme a pu prendre le départ. Mais ce dimanche pluvieux à Boston, le patriarcat est sur le point de chanceler. Nous sommes le 19 avril 1967. Les haut-parleurs, le long des premiers kilomètres de la course, passent en boucle les hits du moment. Le dernier single des Temptations s'enchaîne avec Somebody to Love de Jefferson Airplane. Et alors que la voiture des officiels vient de les dépasser, la petite bande fredonne les mélodies qu'ils entendent. Oh, pas pour longtemps. Dans la voiture, Joke Sample, l'un des directeurs, est pris d'un coup de sang qui va entrer dans l'histoire. Sans aucun ménagement, il enjambe les journalistes, ouvre la portière et saute sur le bitume. Le véhicule est en marche et il manque de se tordre la cheville. Voilà que le temps de se réceptionner, il arrive juste derrière le groupe de coureurs. Il a le visage rouge de colère, de tension. Son costume, déjà assez serré, craque alors qu'il commence à courir son marathon en trois pièces. Vous imaginez? Il ne supporte plus ces femmes qui tentent de déroger à la règle. Non mais c'en est trop! Et en voilà une avec un dossard et un numéro officiel? Non mais tu vas voir, ouais. Aucune chance que cela dure. Et voilà que notre directeur de course se met à courir à vive allure pour rattraper la jeune femme. Pour Catherine, la situation n'est pas encore critique. Elle sourit aux journalistes. Elle n'a pas encore compris la comédie qui se déroule derrière elle. Ce n'est qu'au bout de quelques minutes qu'elle entend crisser sur le bitume les semelles de cuir de ce coureur si particulier. Alors, elle se retourne et bien mal lui en a pris. La scène, elle, entre dans la légende. Catherine se retrouve nez à nez avec l'Écossais en rogne. Il s'exclame à son intention d'une voix haletante « Dégage de là! Sors de ma course !» Terrorisée, la jeune femme essaie d'accélérer la cadence. Mais avant même que les garçons qui l'accompagnent ne puissent agir, l'Écossais agrippe son maillot. Il tente d'arracher le fameux numéro 261. Surtout ne pas s'arrêter. Si elle se stoppe, la course est terminée. Il sera impossible de reprendre. Mais l'imposant directeur qui la tire par le dos rend tout mouvement extrêmement difficile. Pour Catherine, tout semble perdu. Mais heureusement, elle n'est pas seule. Son petit ami est un lanceur de marteau, vous vous souvenez? Eh bien, voilà qu'il fonce droit sur Sample et lui envoie un coup d'épaule assez puissant pour le faire vaciller. Sample relâche une première fois son étreinte. Les photographes, eux, se régalent et font marcher leurs appareils. Ce sont les photos du siècle qu'ils réalisent, le symbole même de la lutte entre les sexes. Parmi eux se trouve le futur prix Pulitzer. Miller, de son coup d'épaule, vient d'envoyer valdinguer le directeur de course. Ce dernier perd l'équilibre et manque de se casser quelque chose. Mais il n'est pas redescendu en pression, comme vous pouvez l'imaginer, loin de là. Oh, il tente bien de repartir, mais il n'arrive pas à rattraper le groupe. C'est terminé. Une femme va potentiellement passer la ligne d'arrivée officiellement pour la première fois, et ce sera sous sa mandature. L'Écossais est totalement anéanti et ridiculisé par ce coup d'épaule magistral venu d'ailleurs. Mais l'auteur de ce geste, lui, ne fait pas le fier. Tom Miller est un athlète de haut niveau. Ce n'est pas un coureur, du moins pas professionnel. Lui, sa discipline, c'est le lancer de marteau. Sa musculature est donc impressionnante. Autant vous dire que ce coup d'épaule, le directeur de course a dû le sentir passer. Mais pour autant, Miller est énervé. Après sa compagne, c'est sa carrière qu'il a joué sur ce geste. Celui qui vise les JO de Mexico n'est pas certain de se sortir correctement d'une attaque pareille contre un officiel. Une grosse amende? Un mandat d'arrêt? Pire, une lourde suspension? Dans sa tête, toutes les hypothèses fusent. La tension augmente à son tour et la coupable est toute désignée, Catherine. Alors attention, loin de lui l'idée de dire qu'elle a eu tort de prendre le départ, mais tout de même, c'est lui qui sera pénalisé à la suite de ce coup de sang qui aurait pu être évité. Il tente de lui en parler, mais la jeune femme de 20 ans a le nez dans sa course. Elle le renvoie dans les cordes en lui disant que personne ne lui a demandé de jouer les gros bras. Le petit ami explose, de colère j'entends. Il arrache son dossard et hurle sur sa petite amie. Le coach de Catherine, lui, s'interpose entre deux. En conclusion, Miller part en solo finir cette épreuve en ayant perdu la conviction que son couple est fait pour durer et celle que courir ce marathon de Boston était une bonne idée. Autant vous dire que cette fois, conserver l'énergie nécessaire à la course est pour Catherine très difficile. Entre le début de bagarre avec un officiel et la dispute avec son petit ami, rien n'est engageant dans le fait de participer à cette course. Heureusement, Arnie, son coach, lui, est toujours là, fidèle au poste. Il la raisonne, tente de lui faire calmer sa respiration devenue haletante, bien entendu. Le groupe baisse de rythme. On croit même un moment que continuer va être difficile. D'autant plus que l'ours écossais n'a pas dit son dernier mot. On l'entend vociférer à des dizaines de mètres derrière et on craint la nouvelle confrontation. Le lanceur de marteau, lui, n'est plus là pour la défendre. Alors le groupe de coureurs du club se positionne pour protéger Catherine. Devant cette foule d'hommes et craignant sans doute de subir un nouveau revers, Semple se contente cette fois de dépasser la jeune femme en lui hurlant des menaces. Rien de bien rassurant, ni pour elle, ni pour ceux qui l'accompagnent. Tous peut-être devront payer de leur participation ultérieure le soutien à la révolution. Les dés, eux, sont jetés. La course est à terminer. Et Catherine, elle, n'a pas l'intention d'abandonner si facilement. Elle n'a jamais souhaité auparavant se placer en Jeanne d'Arc de la cause féminine. Ses motivations sont plutôt personnelles. Courir pour exister, en quelque sorte. Pour se prouver. Et prouver au monde quelque chose. Mais Catherine est trop humble pour envisager tout de suite qu'elle est devenue à l'instant où elle a pris le départ le porte-étendard de la cause féministe. C'est pourtant ce qu'elle est. Les scènes qu'elle a vécues durant l'épreuve, certes traumatisantes, vont entrer dans la légende. Elles vont devenir une source d'inspiration pour des milliers de jeunes femmes qui, comme elle, rêvent de courir. Et bien entendu, on n'y est pas encore. Il reste du chemin à parcourir. Nous ne sommes même pas au 30e kilomètre. La mi-course est dépassée, certes, mais ce n'est pas encore fini. L'objectif ultime, le Graal, est très loin. C'est presque inespéré de se dire qu'on le touche du bout des doigts, d'autant que la condition physique de notre héroïne, à cet instant, est loin d'être bonne. sa respiration n'est pas retombée et donc le taux d'oxygène dans ses muscles est loin d'être optimal. Le cardio dans une épreuve comme celle-ci, voilà un élément déterminant qui, à coup sûr, peut vous faire changer la physionomie de la course. Catherine passe par un moment où elle doute et c'est le genre d'hésitation qui peut vous faire perdre pied. Elle regarde son coach Arnie, toujours à sa droite, et jette un coup d'œil en arrière sur les autres membres de son club. Tous sont dans l'effort, ne remarquent même pas qu'elle envisage de s'arrêter. Pourtant, comme un poison qui coule dans ses veines, il s'immisce partout, ce fameux doute. Jusqu'au déclic. Elle regarde son numéro, lève la tête et se reprend. Non, non, non. C'est le marathon de Boston et surtout, elle est la première femme à le courir de manière officielle. Quel message serait envoyé à toute cette bande de misogynes si effectivement elle arrêtait son effort et mettait un terme à sa course maintenant? Instinctivement, Catherine cherche son coach du regard en quête de son approbation. Quelques secondes et le contact visuel est établi. Entre deux respirations déjà devenues bien meilleures, elle lui annonce son intention de finir le marathon en quelques mots. « Écoute, je vais peut-être t'attirer des ennuis à toi aussi, mais faut que j'aille au bout. Dussé-je le faire en rampant, sinon le message que je vais renvoyer, ce sera que les femmes sont effectivement incapables de terminer un marathon. » Là, la machine est relancée.
L'heure H, Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur une édition bien particulière du mythique marathon de Boston, celle de 1967. Cette année-là, une jeune femme de 20 ans s'est décidée à briser les codes du machisme en vigueur en participant à la course. Et cela, grâce à une faille juridique du règlement. Catherine Switzer est donc la toute première femme à tenter le coup. Mais son parcours n'est pas de tout repos. Attaquée par un des directeurs de la course, abandonnée par son petit ami qui la laisse se débrouiller en solo à la suite d'une engueulade, pour elle, tout est délicat. Mais après quelques kilomètres de doute, Catherine se décide à terminer la course et à porter son message. Allez. Allez Catherine, encore 12 kilomètres. Nous sommes toujours le 19 avril 1967. La course est loin d'être terminée, mais déjà, elle est gagnée dans les têtes. Catherine et son coach Arnie en tête sont décidés à terminer le parcours de 42,195 kilomètres. Il en reste un tout petit peu plus de 12. Oh, pas une paille, certes, mais le plus dur est derrière. D'autant que les agressions sont passées. Et alors que tout le monde à sa place aurait pu avoir de la rancune et de la colère envers le directeur de la course, il n'en est rien pour la jeune femme. Elle le voit comme un pur produit de son époque. Ah, la sagesse, en plus des jambes. La colère partie, la peur avec. Les foulées sont de nouveau plus saines, plus belles, moins fatigantes. Les temps, eux, sont aussi meilleurs. Tout va mieux, donc. Et la course sera bientôt terminée. La pluie et la neige n'ont pas cessé, loin de là. Les vêtements sont gorgés d'eau. Catherine doit se débarrasser de son survêtement. Un de ses gants se perd en route. Celle qui visait les 4 heures de course va franchir la ligne d'arrivée avec un peu de retard sur le chrono qu'elle espérait. 4h20. Mais l'essentiel n'est pas là. Elle est la première femme à terminer le marathon de Boston. Officiellement, du moins. Cachée derrière sa casquette, Bobby Gibb a fait péter un temps hallucinant de 3h27. Comme quoi il est malhonnête de dire qu'une femme est incapable et de terminer la course et de faire un temps parfois bien meilleur que ceux des hommes. Pour Catherine, exténuée, une autre bataille commence. celle à mener face aux officiels, face à la presse aussi. La première balle ne met pas longtemps à être tirée. Suspension longue durée et disqualification. Mais le résultat est ailleurs. Le sport féminin vient de faire un pas de géant. La démonstration par A plus B que les femmes sont tout autant capables que les hommes. Sur la ligne de départ, j'étais une jeune fille. Et sur la ligne d'arrivée, j'étais devenue une femme. Voilà comment Catherine résume sa course après coup. Son combat et sa vocation sont nés. Ils seront d'offrir la possibilité aux femmes de courir. Dans la presse, dans les meetings, sa présence s'affirme et son action va payer. Le marathon de New York City ouvre le bal en 1971. Et l'année suivante, le machisme perd définitivement pied à Boston. 5 ans après sa course légendaire, Catherine reprend la ligne de départ, mais cette fois en totale légalité et au milieu d'autres femmes. La place que prend le combat n'est pas pour autant la fermeture totale de sa carrière, qu'elle reprendra une fois la suspension totalement injuste levée. Elle gagne à New York City en 1974 et en 1975 et établit ce qui reste son record personnel en moins de 3 heures à Boston, avec une moyenne supérieure à 15 km par heure. À cette vitesse, elle a eu beaucoup d'hommes dans le rétroviseur. Repérée par le groupe Avon qui se lance dans le combat, elle organise un mini-marathon à New York City toujours pour créer des vocations, avant de faire grossir la place de la course féminine dans le monde. Le circuit devient international, du Brésil à l'Asie. En 1980, c'est la gloire qui, enfin, frappe à sa porte. Elle organise le tout premier marathon de Londres, exclusivement féminin, qui plus est, diffusé sur des grandes chaînes. C'est la consécration. 4 ans plus tard, comme une cerise sur le gâteau, les JO organisent le premier marathon féminin. Le combat de Catherine est une réussite, celle de placer les femmes au centre de ce sport dans lequel certaines excellent. Catherine Switzer passe aujourd'hui le plus clair de son temps dans une de ses propriétés situées en Nouvelle-Zélande. Journaliste et écrivaine, elle continue de s'engager dans la lutte pour l'égalité des sexes. Et Joe Sample dans tout ça? Le fameux directeur de course? Eh bien, croyez-moi si vous le voulez, les deux sont devenus les meilleurs amis du monde à la suite d'une réconciliation quelques années après la course légendaire. Cela se passe en 1972. Catherine termine 3e de la première édition réservée aux femmes à Boston. Sample, toujours directeur, doit donc lui remettre sa médaille. Grand moment de retrouvailles, comme vous pouvez l'imaginer. Problème. La coupe est fissurée. Sample s'exclame alors. « Ça fait 5 ans que je suis en colère après toi. Tu méritais bien un trophée cassé. » Et l'année suivante, le directeur lui tombe dans les bras à l'arrivée, sous l'œil des photographes. Bien plus tard, en 1988, le vieil homme est sur son lit de mort et... comme un symbole. C'est elle qui vient lui rendre une dernière visite, quelques heures seulement avant son grand départ. Un profond respect mutuel les liait depuis 1972. C'est peut-être aussi ça, le plus beau tour de force de la coureuse. Avoir provoqué l'intégration des femmes dans un milieu à l'époque tellement machiste qui leur en interdisait la présence. Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec une citation de Catherine Switzer. Comme un symbole, en 2017, elle est encore sur la ligne de départ du 50e anniversaire de la fameuse course de 1967. C'est son 9e départ à Boston. Sur les 27 000 participants cette année-là, plus de 13 500 sont des femmes. La moitié d'entre elles portent le fameux numéro 261 sur la poitrine. Émue, la coureuse s'exclame alors. « imaginer comment je me sentais 50 ans plus tôt. J'étais seul, terrifié. Et là, j'avais des milliers de femmes à mes côtés qui venaient me témoigner leur gratitude. À ce moment-là, j'ai ressenti une forme de plénitude, l'impression d'avoir œuvré toute ma vie pour quelque chose d'utile. Et je me suis dit qu'après avoir vu ça, je pouvais mourir tranquille. Souhaitons tout de même à Catherine une vie bien plus longue, menée de succès encore si importants dans sa lutte pour l'égalité des sexes. Et je vous invite à aller voir le site web de son association. 261 Fearless. Tout un symbole, encore. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.